Salut les kids, l'émission pour enfants de Radio G. Lecture, culture, c'est l'heure du temps calme.
Salut la tribu de Salut les kids, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle émission. On est mercredi 2 avril et je vous ai préparé une émission spéciale Gaulois. Vous allez partir à la découverte de vos ancêtres. Qui sont les Gaulois et quelles étaient leurs habitudes pour vous faire découvrir un peuple très vieux? Il y a 5000 ans d'ailleurs, il y avait des Gaulois à Angers, les enfants. Je vais vous raconter tout ça. Il y aura donc deux histoires sur les Gaulois, deux mots d'anglais et toujours plus de découvertes avec le Labo des Sciences. J'espère que vous êtes confortablement installés. Profitez de votre mercredi avec Salut les Kids. C'est parti! Et voici pour l'occasion un premier mot d'anglais pour vous, petit Gaulois.
Oyez, oyez, c'est l'heure du mot d'anglais.
Allez, c'est parti, le premier mot d'anglais du jour, c'est helmet, helmet, helmet. Ça veut dire casque, comme celui à vélo, ou le casque que les Gaulois portaient sur la tête, ou même comme le casque de chantier. Il s'écrit en 6 lettres, le H, le E, L, M, E, T. En anglais, H, I, L, M, I, T. Helmet. Le mot helmet s'utilise tous les jours. Quand tu fais du vélo, avant de partir, tu mets ton casque. En anglais, on dit « I put my helmet ». Les Gaulois portaient un casque sur la tête car ils étaient des guerriers. C'était donc un casque de protection qu'on appelle « protective helmet ». Comme celui sur le chantier de construction aujourd'hui. « Helmet » commence par un H. Il faut donc expirer très fort au début « ha » pour prononcer la suite du mot « helmet ». Voilà les enfants, pour votre prochain tour de vélo, vous n'avez plus qu'à dire « helmet » quand vous allez mettre votre casque et le tour est joué. Vous voilà avec un nouveau mot d'anglais dans votre besace. À tout à l'heure pour un deuxième mot. Sympa ce mot, c'est vrai que le casque de chantier, c'est un objet très connu pour vous les enfants, comme le casque de pompier, c'est un objet qui vous rend curieux. Avant de démarrer la première histoire, on file au Labo des Sciences pour parler du peuple gaulois.
Approchez les enfants. Bienvenue dans le laboratoire de Salut les Kids. Est-ce que vous êtes prêts à percer les mystères de la science?
Et les Gaulois, qui étaient-ils, les enfants? Alors, il y a très longtemps, avant que la France ne s'appelle France, elle était habitée par un peuple courageux et fier. C'étaient les Gaulois. Alors, où vivaient les Gaulois? Les Gaulois vivaient sur un immense territoire appelé la Gaule. Ce territoire couvre la France d'aujourd'hui, mais aussi une partie de la Belgique, de la Suisse et du nord de l'Italie, plus à l'est. Et comment étaient les Gaulois, alors? Eh bien, les Gaulois étaient de grands guerriers, forts et courageux. Ils avaient les cheveux longs et portaient souvent des moustaches. Ils aimaient aussi porter des vêtements colorés et des bijoux en métal. Mais attention, les Gaulois n'étaient pas seulement des combattants, c'étaient aussi des artisans, des paysans et des commerçants très talentueux. Ils faisaient de la poterie et c'étaient de grands forgerons. Ils pouvaient fabriquer des épées, des haches et même des bijoux en métal qui étaient ensuite revendus dans toute la Gaule. Et où habitaient donc ces Gaulois? Eh bien les enfants, les Gaulois vivaient dans des villages fortifiés appelés oppidia ou oppidum. Ces villages étaient construits en haut de collines pour mieux se défendre contre les ennemis. Ils construisaient des maisons en terre et en paille et ensuite, tout autour des maisons, ils dressaient une grande palissade en bois. D'ailleurs, à Angers, avant que le château soit construit, il y avait un oppidia. Le peuple gaulois angevin s'appelle les Andécaves et c'est là qu'ils vivaient. Et que mangeaient donc les Gaulois, les enfants? Les Gaulois cultivaient du blé pour faire du pain, comme aujourd'hui. Ce sont nos ancêtres de la culture. Ils élevaient aussi des animaux comme des vaches et des cochons, et ils adoraient le sanglier. Ils mangeaient aussi des fruits, des légumes, et buvaient une boisson spéciale appelée hydromel, faite avec du miel. Ils faisaient aussi du vin, et donc c'était de grands cueilleurs. Et les druides alors, ce sont les savants des Gaulois. Chez les Gaulois, il y avait des personnages très importants que sont les druides. Ce n'étaient pas des magiciens comme dans les histoires, mais des savants et des prêtres. Ils connaissaient les plantes et savaient soigner les maladies. Ils organisaient aussi les cérémonies religieuses. Et alors, les Gaulois, comment ont-ils disparu? Eh bien, ils se battaient entre eux souvent, puisque la Gaule était formée de différents peuples gaulois, et donc certains n'étaient pas d'accord avec les autres. Mais leur plus grand ennemi était l'Empire romain, dirigé par Jules César. En -52 avant Jésus-Christ, un chef gaulois célèbre, nommé Vercingétorix, mena une grande révolte contre les Romains. Malheureusement, après une grande bataille à Alésia, il fut capturé, et la Gaule devint romaine. Et donc les enfants, quel est votre héritage des Gaulois? Eh bien, même si les Romains ont conquis la Gaule, les Gaulois n'ont pas disparu. Ils ont mélangé leurs traditions avec celles des Romains. Et beaucoup de mots de la langue gauloise existent encore en français aujourd'hui. Par exemple, le mot « char » vient du gaulois. En conclusion, les Gaulois étaient donc un peuple fascinant, courageux et ingénieux. Aujourd'hui encore, les enfants, on se souvient d'eux grâce aux découvertes archéologiques sur les chantiers. Et bien sûr, grâce à Astérix et Obélix. Il y a d'ailleurs près d'Angers, en Mayenne, à Jublin, un site gaulois très intéressant à visiter. Je vous invite les enfants à motiver papa et à maman et à aller faire un tour à peu près une heure d'Angers. Vous pourrez découvrir les traces de vos ancêtres. À bientôt dans le labo. Et oui, les enfants, les Gaulois sont un peuple qui nous a laissé beaucoup d'histoires. Et d'ailleurs, les enfants, il y a forcément des Gaulois que vous connaissez, que sont Astérix et Obélix. Et oui, cette fameuse bande dessinée, c'est bien plus qu'une bande dessinée. C'est un monde plein de rires et d'aventures et de personnages attachants. Créée en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo, cette bande dessinée raconte les aventures de deux Gaulois courageux et malicieux qui vivent dans un petit village résistant à l'envahisseur romain. Dans le cadre de cette histoire, elle se déroule il y a plus de 2000 ans, pendant l'époque de l'Empire romain, dans un petit village de la Gaule, qui résiste encore et toujours aux envahisseurs. Ces derniers cherchent à conquérir toute la Gaule, mais un petit village résiste grâce à un secret bien gardé, une potion magique qui donne une force incroyable incroyable à ceux qui la boivent. Et c'est là que nous rencontrons nos deux héros, Astérix et Obélix. Astérix, petit par la taille, mais grand par son intelligence et son courage. Astérix est le personnage principal de la série. C'est un Gaulois astucieux, toujours prêt à trouver des solutions pour déjouer le plan des Romains. Avec son casque sur la tête et sa moustache, il part à l'aventure à travers la Gaule, mais aussi dans d'autres pays pour défendre son village et ses amis. Il y a aussi Obélix, son meilleur ami et compagnon d'aventure. Obélix est un Gaulois géant, très fort, qui n'a pas besoin de potions magiques pour être plus puissant qu'un chevalier. Il adore manger des sangliers et il est toujours de bonne humeur, bien que peu naïf parfois. Ensemble, Astérix et Obélix forment un duo d'amis inséparables. Alors pourquoi lire Astérix et Obélix? Eh bien c'est une série parfaite pour vous les enfants, à tout âge, et chaque aventure est passionnante, drôle et pleine de surprises. Si tu n'as pas encore lu leurs aventures, il est temps de découvrir ce monde magique où l'humour se mêle à l'histoire et à l'aventure. Il y a plus de 30 albums à découvrir, chacun avec une histoire unique qui te transportera dans l'univers fascinant de la Gaule antique. D'ailleurs, il y a aussi des dessins animés Astérix qui sont à voir et à revoir à volonté. Et je vous passe tout de suite un petit extrait avec cette chanson du pudding.
Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faites-y dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin
et un peu de poivre en grain.
Non.
Hein?
Bon.
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre
et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah?
Bon.
Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de grec, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non ! Oui !
Ah, je savais bien que ça serait bon.
Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles?
Des
Gaulois. Yeah.
Pour continuer la découverte de ce peuple, voici la grande histoire du jour. C'est celle de Félix le Gaulois qui part à l'aventure. Installez-vous confortablement pour cette histoire inédite dans Salut les Kids.
La grande histoire.
Il était une fois, dans un petit village gaulois niché au cœur de la forêt, un jeune héros nommé Félix. Il était courageux, malin et toujours prêt à défendre son village. Un matin ensoleillé, alors que les oiseaux chantaient et que les villageois se préparaient pour une grande fête, Félix reçut une étrange mission de la part du druide de son village. « Félix, je t'ordonne de te rendre à la grotte des ombres, là où personne n'ose s'aventurer. Cela fera de toi un vrai guerrier gaulois. Une vieille légende parle d'un trésor caché, mais un terrible secret demeure à l'intérieur de la grotte. Toi seul, avec ta bravoure et ton esprit, peut peut-être le découvrir. » Félix, son bouclier sur le dos et sa hache bien affûtée, n'hésita pas une seconde. Il prit la route vers la grotte des ombres, qui se trouvait dans les montagnes sombres et mystérieuses. En partant, son voisin le poissonnier Fumix lui donna du poisson. « Tiens, prends ce poisson séché, il te donnera vigueur et courage. » Le chemin était difficile, sinueux, et la forêt semblait de plus en plus dense au fur et à mesure qu'il s'éloignait de son village. Après plusieurs heures de marche, il arriva enfin devant l'entrée de la grotte. Une épaisse brume s'en échappait, comme si la grotte elle-même voulait garder son secret. Félix se décida à entrer. À l'intérieur, l'air était frais et lourd, des échos résonnaient à chaque pas qu'il faisait, et le sol était recouvert de pierres glissantes. Soudain, une forme massive émergea des ténèbres. C'était un énorme ours, les yeux gris brillants de colère. Il se tenait là, entre Félix et le passage qui semblait mener plus profondément dans la grotte. Félix s'arrêta net, mais son courage ne le quitta pas. L'ours grogna et se lança vers lui avec une vitesse surprenante pour un animal de cette taille. Félix, agile comme un chat, esquiva de justesse l'attaque, et son bouclier fit un bruit métallique en frappant la pierre. Il avait vu de nombreuses bêtes sauvages dans la forêt, mais jamais un ours aussi grand et menaçant. Il tenta de le repousser en brandissant sa hache, mais l'ours était plus rapide et plus puissant qu'il ne l'aurait imaginé. Félix recula lentement, cherchant un moyen de s'échapper. C'est alors qu'il remarqua un détail surprenant, un étrange dessin gravé sur la paroi de la grotte, juste au-dessus de l'ours. Il s'agissait d'un cercle formé de lignes et de symboles anciens. « C'est une porte secrète !» se dit-il. Il comprit que l'ours, loin d'être un simple animal sauvage, protégeait quelque chose de bien plus précieux. Une entrée vers un autre monde. L'ours rugit de plus belle, mais Félix, avec son esprit vif, eut une idée. Il se rappela les paroles du druide. Le courage ne réside pas seulement dans la force, mais dans la sagesse et la ruse. Il décida alors d'attirer l'ours loin du cercle gravé. D'un coup, il sortit le poisson séché de sa sacoche et le jeta au fond de la grotte qui était en contrebas. L'ours, toujours plus enragé, se précipita vers la nourriture qu'il avait flairée. Profitant de l'absence de la bête, Félix s'approcha furtivement de la paroi et toucha le dessin avec le bout de sa hache. Un éclair de lumière jaillit alors du cercle et une porte secrète s'ouvrit, révélant un passage étroit qui descendait dans les profondeurs de la grotte. Félix n'eut pas le temps de réfléchir, il s'élança dans le passage, juste avant que l'ours ne se rende compte de ce qu'il avait manqué. Il se retrouva dans une vaste salle souterraine, éclairée par une lueur mystique. Au centre, un immense coffre était posé sur un piédestal de pierre. Félix s'approcha prudemment et ouvrit le coffre. À l'intérieur, il trouva des objets en or, en argent, mais aussi un vieux manuscrit, écrit dans une langue que Félix ne connaissait pas. Félix le prit dans sa main et sentit une étrange chaleur s'en dégager. Il comprit alors que ce médaillon était la clé pour résoudre un autre mystère, bien plus grand que ce trésor. Mais alors qu'il examinait le médaillon, il entendit un rugissement derrière lui. L'ours était là, à l'entrée de la salle, ses yeux brillants de fureur, et il sentait le poisson sécher. Cette fois, Félix ne pouvait plus fuir, mais il savait que la clé du mystère résidait dans la sagesse et non dans la force brute. Il tendit le médaillon vers l'ours, et à sa grande surprise, l'animal s'arrêta. Le silence se fit dans la grotte et l'ours s'inclina lentement devant Félix, comme s'il reconnaissait le pouvoir du médaillon. Il s'éloigna ensuite et se dirigea vers une autre sortie de la grotte. Félix comprit alors que l'ours n'était pas un simple gardien, mais le protecteur d'un ancien savoir. En le respectant et en utilisant son intelligence, il avait trouvé non seulement un trésor matériel, mais aussi un trésor de sagesse. Il prit le médaillon et le manuscrit, puis quitta la grotte, prêt à rapporter ses précieux objets à son village. Sur le chemin du retour, Félix savait qu'il n'était plus seulement un héros de son village, mais qu'il avait désormais une mission plus grande, celle de comprendre les secrets cachés dans les profondeurs de la terre et de protéger ce savoir ancien. Il avait aussi très faim. Et ainsi, le jeune Gaulois Félix devint un sage héros, reconnu pour sa bravoure, mais aussi pour sa sagesse, qui ne cherchait pas à conquérir, mais à comprendre. Les villageois le félicitèrent et se rassemblèrent tous ensemble autour d'un banquet, riche en poissons séchés, pain frais et bon jus d'hydromel. Fin de l'histoire.
La grosse histoire.
Eh bien voilà, quelle aventure pour Félix le Gaulois. Le poisson séché, ça sauve toujours. Et puis, quand on part en randonnée comme ça, il faut toujours prendre de quoi manger. On ne sait jamais ce qui peut arriver, les enfants. Et maintenant, on fait une pause et on se retrouve juste après pour l'agenda des sorties. Salut les kids, c'est l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-moi Nicolas, un mercredi sur deux à 13h. Salut les kids, c'est une émission fun et éducative, avec de la lecture et de la culture. Toi aussi, viens t'amuser avec nous sur le 101.5 FM. Allez, salut les kids. Et voici l'agenda du jour les enfants. En plus, c'est les vacances vendredi, alors voici de quoi vous amuser avec deux sorties nature pour ce printemps. Le premier, rendez-vous le 10 mars au lac de Maine pour une découverte végétale. C'est à la Maison de l'Environnement que ça se passe, où petits et grands sont invités à venir découvrir leurs sens grâce à la nature entre texture et odeur, observations au microscope qui vous feront voir plein de nouvelles choses. Inscription en ligne obligatoire. Ensuite, j'ai une autre sortie nature à l'étang Saint-Nicolas le 16 avril. Vous partez en compagnie d'un animateur de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, pour découvrir les mammifères qui habitent cet étang. Un rallye est organisé pour trouver des indices et des traces de castors ou de loutres habitant dans nos rivières. Une manière très ludique pour les enfants d'apprivoiser des connaissances sur les animaux de chez nous. Je rappelle que toutes ces sorties sont disponibles dans l'agenda de la ville d'Angers à retrouver sur Internet. Et en attendant vos prochaines aventures, voici le deuxième mot d'anglais du jour. Qui sait ? Peut-être que vous allez tomber sur un castor qui parle anglais. Hé, hey, imaginez ! Bah grâce à Salut les Kids, vous êtes prêts à parler anglais au moins les enfants. Allez, let's go !
Oyez, oyez ! C'est l'heure du mot d'anglais.
Et pour ce deuxième mot d'anglais, vous allez découvrir un mot simple. Écoutez bien les enfants, le voici. House. 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 Ça veut dire maison. Il s'écrit en cinq lettres. Le H-O-U-S-E. En anglais, H-O-U-S-E. House. Le mot house s'utilise très fréquemment dès qu'on parle de chez soi. I live in a house. I go back to my house. I love my house. This is my house. House est un mot que vous pouvez utiliser dès que vous voulez parler de chez vous, les enfants. Que vous soyez perdus, ou ça peut être aussi une manière de parler l'endroit où on va dormir ce soir. I sleep in a house. Alors voilà les enfants, c'est un deuxième mot aujourd'hui avec un H au début. Ça vous entraîne sur la bonne prononciation. Le H. House. Helmet. House. Helmet. Voilà les enfants, j'espère que ça vous plaît et que ça vous amuse surtout. Allez, c'est fini pour aujourd'hui l'anglais. On se revoit dans 15 jours pour deux nouveaux mots. Et maintenant, c'est l'heure de la deuxième histoire. Vous allez découvrir comment le druide Aelorix a réussi à trouver la recette de la potion magique.
Elliot, tu crois que c'est la dernière histoire ?
Le secret du druide Aelorix. Dans une clairière secrète de la vaste forêt d'Écarnute vivait Aelorix, un druide sage et respecté. Il connaissait les secrets des plantes, les étoiles et les légendes anciennes. Il était capable de reconnaître Jupiter dans un ciel étoilé. Pourtant, il lui manquait encore une chose, une potion qui donnerait à son peuple une force inégalée pour protéger leur village des envahisseurs romains. Cela faisait trop longtemps qu'il subissait des attaques et le village devenait de plus en plus faible. Un matin, lors de sa balade de cueillette, et alors qu'il observait les oiseaux dansant au-dessus d'un vieux chêne, Aelorix vit un écureuil grignoter une graine étrange. L'animal se mit à bondir avec une énergie incroyable, escalada dans les arbres plus vite qu'une flèche. Intrigué, il voulait savoir pourquoi cet écureuil paraissait si fort après les avoir mangés. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, une silhouette surgit des fourrés. C'était Morgaine, un druide renégat aux intentions troubles. « Que fais-tu ici, Aelorix ?» demanda-t-il d'une voix sifflante. Morgaine, jaloux de son ancien confrère, ne voulait pas qu'Aelorix découvre une potion pour renforcer son village. « Je cherche de nouvelles plantes pour mes potions, » répondit Aelorix prudemment. Mais Morgaine, flairant un secret, tenta de s'emparer des graines qu'il tenait dans la main. S'ensuivit une lutte où Aelorix dut user de toute sa ruse pour distraire son adversaire. Profitant d'un moment d'inattention, il jeta une poignée de poudre de gui au sol, créant un nuage aveuglant. Profitant de la confusion, il s'échappa en courant vers son village. Morgaine se retrouva seul au milieu des bois, les yeux tout rouges et gonflés. « Satané druide, toujours un tour pour disparaître !» Cependant, un autre défi l'attendait encore. Les graines qu'il avait ramassées n'étaient qu'un des ingrédients nécessaires. Il devait aussi récolter une fleur rare, la belladone dorée, qui ne poussait qu'au sommet des falaises bordant la rivière sacrée. Le chemin était dangereux, semé de pierres glissantes, de sangliers et de courants traîtres. Bravant le vent et la pluie, Aelorix escalada avec prudence la paroi rocheuse. À mi-hauteur, son pied dérapa sur une pierre humide et il manqua de basculer dans le vide. Son cœur battait à tout rompre, mais il s'agrippa de justesse à une racine. Il faut savoir que les druides ne savent pas nager. Il atteignit enfin la précieuse plante, l'arracha délicatement et redescendit prudemment jusqu'au sol. De retour dans sa hutte, il entreprit de préparer la potion. Il broya les graines, ajouta du miel et un brin de verveine, puis fit chauffer le tout dans son chaudron. Pourtant, malgré tous ses efforts, la potion ne prenait pas. Frustré, il essaya plusieurs combinaisons. Mais rien ne fonctionnait. Désespéré, Aelorix se plongea dans les vieux grimoires de son maître. Après des heures de recherche, il trouva un papyrus ancien, dissimulé entre deux pages d'un livre ramené d'un voyage à Alexandrie. Il y était inscrit « L'ordre fait la force ». D'abord le miel, puis les graines, enfin la fleur sacrée sous la lueur de la lune et de Jupiter. Aelorix comprit alors son erreur. Il attendit la nuit étoilée de la prochaine lune, suivit minutieusement les instructions et, cette fois, la potion prit une magnifique teinte dorée. Curieux, il en goûta quelques gouttes et sentit immédiatement une vague d'énergie parcourir son corps. Son esprit devint plus vif et il se sentit aussi fort qu'un sanglier enragé. Ravi de sa découverte, il testa la potion sur quelques guerriers du village. Aussitôt, il courait plus vite, soulevait de pierres énormes et se sentait invincible. Mais Aelorix savait qu'un grand pouvoir demandait sagesse et précaution. Il enseigna donc à son peuple que cette potion ne devait être utilisée qu'en dernier recours et toujours avec humilité. Grâce à cette nouvelle force, les Gaulois purent défendre leur village avec bravoure, et les Romains, stupéfaits, prirent la fuite. La potion d'Aelorix devint un secret jalousement gardé, transmis uniquement aux druides dignes de confiance. Le papyrus fut renvoyé en Égypte pour ne plus être à la portée de tous. Ainsi, dans les forêts profondes de la Gaule, le savoir des druides et la magie des plantes continuèrent à veiller sur leur peuple, à jamais protégé par la sagesse d'Aelorix, qui transmit son savoir aux druides les plus sages. Fin de l'histoire. Et voilà les enfants, ces histoires ont été inventées juste pour vous. J'espère qu'elles vous ont plu. On se détend maintenant en musique avant de se dire au revoir et on écoute la tribu de Dana.
Regarde sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. De druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mises à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana.
L'émission se termine les enfants, vous avez découvert les Gaulois et j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je me suis bien amusé à fabriquer cette émission et à écrire des histoires pour vous. Maintenant, profitez des vacances qui arrivent ce week-end. On se retrouve dans l'émission de Pâques dans 15 jours. Allez, salut Elliot et salut les kids. Salut les kids, c'était l'émission pour enfants de Radio G.
Retrouvez-nous en podcast sur le site www.radio-g.fr. Radio G.